7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels.
Bonjour Richard.
Alors, vous avez décidé de nous parler des 64 millions d'immigrés non européens de première génération, dont Maëlys Tozel nous a déjà un peu parlé ce matin.
Oui, tout à fait. C'est un véritable déluge dont nos élites politiques et hélas la majorité de nos électeurs portent l'entière responsabilité. Alors pour vraiment se rendre compte des proportions, il faut se dire que ces 64 millions de personnes sur le sol européen, c'est l'équivalent d'un nouveau grand État européen, de la taille de la France ou de l'Italie, ajouté à l'ensemble déjà complexe des populations de notre continent en quelques années seulement. Et ces chiffres ne concernent évidemment que la première génération d'immigrants. À cette masse s'ajoutent naturellement des dizaines de millions d'individus de deuxième et de troisième génération, souvent naturalisés, mais arborant fréquemment des identités culturelles profondément non européennes. Un tel phénomène n'a guère d'équivalent dans l'histoire européenne. Alors certes, notre continent a toujours connu des migrations, dira-t-on, les grandes invasions de l'Antiquité tardive, l'arrivée des Hongrois, les conquêtes des Vikings, les déplacements de peuples à l'époque moderne ou encore les migrations internes liées à l'industrialisation. Mais jamais encore, ces mouvements n'ont atteint une telle intensité dans un contexte en plus de prospérité relative et de paix intérieure. Historiquement, les migrations massives accompagnaient généralement des catastrophes, des famines, des conquêtes ou des effondrements politiques. Aujourd'hui, elles s'inscrivent paradoxalement dans un contexte où les élites politiques affirment vouloir préserver la stabilité et la prospérité du continent par la migration. Alors il serait tentant d'interpréter ces évolutions comme un simple produit de la mondialisation, du déclin démographique ou des nécessités économiques. Pourtant, l'attitude d'une partie significative des élites occidentales face à ces transformations laisse entrevoir une dimension idéologique beaucoup plus profonde. Alors que de plus en plus de citoyens s'interrogent sur la capacité réelle d'intégration culturelle d'un tel afflux, les milieux au pouvoir persistent à nier l'ampleur du phénomène ou, plus radicalement encore, à l'encourager ouvertement. L'argumentation avancée est bien connue et généralement toujours la même. L'acceptation de l'immigration de masse serait la seule possibilité d'effacer les tares du colonialisme. Le métissage généralisé serait une richesse en soi. Toute interrogation sur les limites d'absorption d'une civilisation relèverait d'une nostalgie réactionnaire, etc., etc. Et pourtant, une telle vision semble ignorer un fait fondamental de l'histoire humaine. Les civilisations ne sont jamais des abstractions neutres, mais des réalités organiques façonnées par des siècles de croyances, de traditions, de continuité ethnique et de structures sociales. Les sociétés qui ont survécu dans la durée ne l'ont pas fait en dissolvant leurs fondements identitaires, mais en les consolidant et en les transmettant. L'idée selon laquelle un melting pot universel constituerait le stade ultime du progrès humain relève donc davantage d'un genre d'idéal abstrait extrêmement dangereux que d'une observation empirique sur le terrain de l'histoire. Face à cette absurdité indéniable, certains critiques voient dans la dynamique actuelle une stratégie explicite. Créer des faits accomplis, démographiques, si massifs qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Dans cette perspective, l'immigration ne serait plus seulement un phénomène socio-économique incontournable, mais un instrument politique cynique visant à redéfinir durablement l'équilibre des sociétés européennes. Ainsi, le remplacement d'une population homogène par des groupes en conflit permanent et dépendant dès lors d'un État sécuritaire, autant que d'un système d'allocation sociale surdéveloppé, garantirait un support durable pour l'élite politique à la tête de cet équilibre instable. Et en effet, force est de constater que l'accumulation des flux migratoires produit des transformations irréversibles dont les conséquences dépasseront largement les générations actuelles et qui risquent de mener tôt ou tard à des conflits gravissimes, voire des guerres civiles, à la marginalisation démographique de la droite patriotique et à la banalisation de l'État sécuritaire.
Alors justement, dans ce contexte, on vient de renouveler l'accord qui lie la France et le Royaume-Uni pour tenter d'endiguer les traversées de migrants illégales. L'attractivité de la France comme pays de transit a d'ailleurs été saluée comme une avancée majeure dans la reconquête du contrôle des flux migratoires.
Oui, sur le papier, cet accord représente en effet un pas dans la bonne direction, un renforcement La coopération policière, financement accru des dispositifs de surveillance, mécanismes destinés à réduire les activités des passeurs, etc. Cependant, une analyse un peu plus lucide conduit à relativiser très fortement la portée de cet accord, car il s'agit, pour reprendre un dicton belge, je sais, peut-être aussi français, je ne sais pas, d'un pansement sur une jambe cassée. Le problème des traversées clandestines de la Manche n'étant que la manifestation visible d'une crise dont les origines se trouvent ailleurs, la porosité structurelle voulue par nos élites des frontières extérieures de l'espace Schengen. La Méditerranée demeure aujourd'hui une frontière toujours largement incontrôlée, tandis que la route des Balkans continue de fonctionner comme un corridor migratoire majeur. Et quiconque tenterait d'imposer un contrôle plus strict, comme Meloni l'a essayé, ou évidemment Orban, se trouve accusé de crimes contre l'humanité. À cela s'ajoutent des décisions nationales qui contribuent à amplifier le phénomène. L'Espagne envisage ainsi la régularisation d'un demi-million de migrants clandestins, lesquels acquérant mécaniquement la possibilité de circuler dans tout l'espace européen, alors que l'Allemagne, principal aimant de ces flux migratoires, continue de poursuivre sa politique suicidaire des portes ouvertes, bradant la nationalité allemande chaque année à des centaines de milliers de réfugiés et continuant d'importer, souvent par voie aérienne, des innombrables nouveaux migrants, surtout venant d'Afghanistan. Dès lors, l'espace Schengen, conçu pour faciliter la mobilité interne entre des sociétés relativement homogènes, se transforme progressivement en un système où les décisions d'un seul État ont des répercussions immédiates sur tous les autres. La difficulté réside donc moins dans la surveillance d'un seul point précis à l'intérieur de l'espace Schengen que plutôt dans la cohérence globale du système. Tant que les frontières extérieures demeureront insuffisamment protégées et que des régularisations abusives continueront d'être décidées unilatéralement, les accords ponctuels ne pourront qu'atténuer très temporairement les symptômes sans traiter la cause du problème.
Alors, et ce problème paraît si vaste, voyez-vous une possibilité de renaissance européenne?
Difficile à dire, car en général, il y a deux tentations opposées qui menacent toutes les deux l'avenir du continent. La première, celle du wokisme, consiste à persister dans l'illusion technocratique selon laquelle des ajustements administratifs et le renoncement volontaire à une identité civilisationnelle forte suffiraient à contenir ou en tout cas à gérer les transformations en cours. La seconde, celle des souverainistes, est de renoncer au projet européen et de retourner à une mosaïque d'États-nations isolées, protégeant du moins leurs frontières nationales, vu que l'Union européenne semble incapable de surveiller les frontières continentales. Alors, aucune de ces options ne me semble offrir une solution viable, comme vous le savez. Une Europe qui abandonne son identité civilisationnelle va droit au suicide. Une Europe fragmentée en une trentaine d'États concurrents serait extrêmement vulnérable face aux grands ensembles géopolitiques contemporains, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou d'autres puissances émergentes. Car dans un monde structuré de plus en plus par des blocs continentaux, la survie politique et économique exige une certaine masse critique que seules des structures supranationales peuvent fournir à l'Europe. Mais cette forteresse européenne ne peut être seulement un espace économique ou administratif, elle doit surtout redevenir une communauté consciente de ses racines historiques, de ses traditions culturelles, de sa foi et de ses responsabilités politiques. Une Europe forte ne signifie pas une Europe uniformisée, mais une Europe capable de défendre ses frontières extérieures tout en préservant la liberté de circulation intérieure et évidemment la subsidiarité nationale et régionale qui constitue l'un de ses acquis les plus précieux. Dans cette perspective, il va de soi qu'il faudra procéder à un arrêt immédiat de l'immigration, à un renvoi systématique des clandestins, à une réappréciation critique du statut des immigrés légaux. Mais ce sera loin, très loin d'être suffisant, sans incitatif à la remigration de ceux qui refusent de s'intégrer, sans pression massive sur les États à l'origine des flux migratoires, sans politique forte d'assimilation civilisationnelle. L'Europe cessera à tout jamais d'être un espace civilisationnel digne de ce nom et se transformera en théâtre de guerre civile et d'usurpation autoritaire. Reste dès lors une interrogation essentielle qui dépasse évidemment les considérations techniques. Existe-t-il encore parmi les élites politiques européennes la volonté et le courage nécessaires pour entreprendre un tel redressement? À observer les tendances actuelles, la réponse semble incertaine, voire plutôt négative. les intérêts divergents des États, les pressions politiques venant de l'Union européenne elle-même, l'impact idéologique du wokisme et la force de groupements obscurs rendent toute réforme profonde extrêmement difficile à imaginer. Et il est fort à craindre que les partis patriotiques n'arriveront au pouvoir qu'au moment où la situation sera de toute manière irréversible, écrouleront rapidement sous la responsabilité d'un échec à leur adversaire finalement.
Eh bien, c'est sur cette note de pas vraiment espoir que nous allons terminer cette chronique. Merci beaucoup, David Engels, et à
Hélas.
la semaine prochaine.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Jean-Yves Le Gallou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Lisotte Dutreuil.
Je peux rapidement rappeler votre CV, Jean-Yves, même si les auditeurs vous connaissent. Vous êtes ancien député européen, président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, Mémoires identitaires, les dessous du grand basculement. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de remigration. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas étudié un sujet froid, chers auditeurs. Alors voici, on s'interroge sur cette grande thématique. C'est la première émission d'une série qu'on va tenter de mener sur plusieurs semaines. On va essayer de décortiquer cette thématique environ une fois par semaine. Donc on commence avec vous, Jean-Yves Le Gallou. Et on s'interroge, illusion ou solution? Qu'est-ce que la remigration? Peut-être pour commencer, un constat. Si aujourd'hui certains réclament la remigration, c'est peut-être parce que les solutions qui ont été tentées avant n'ont pas marché. En tout cas, c'est ce que l'on peut supposer, et notamment quand on se penche sur la question de l'assimilation.
Oui, l'assimilation, ça a été le dogme. C'est encore parfois présenté comme la solution. Or, l'assimilation... Elle peut marcher pour des individus, des individualités, mais elle ne fonctionne manifestement pas pour des communautés étrangères de plus en plus nombreuses, venues d'espaces culturels, civilisationnels de plus en plus éloignés. Et on voit très bien qu'à partir du moment où nous acceptons sur le territoire français de plus en plus de gens venus de pays arabo-musulmans ou venus de pays africains, eh bien, l'assimilation ne fonctionne pas et il y a des communautés qui se constituent de manière séparée et parfois, et même souvent, hostile. Voilà. Donc, ça n'est pas la solution. Alors, puisqu'on parle de remigration, je vais pas traiter l'ensemble du sujet, je vais prendre quelques chiffres très simples. Vous avez actuellement en France, sans doute, plus d'un million de clandestins. Vous avez à peu près 100 000 OQTF, hors de quitter le territoire français, qui sont délivrés chaque année. Et à peu près 10 000 qui sont appliqués. Et il y a eu un projet de loi, une loi même qui a été votée, qu'on a appelée la loi Philippine, qui prévoyait de renforcer la possibilité d'expulser non pas tous les clandestins, non pas tous les clandestins délinquants, mais les clandestins particulièrement dangereux. Et cette loi, donc, qui était tout à fait périphérique par rapport à l'ampleur du sujet, importante sur le plan symbolique, puisque si cette loi avait été votée et préalablement et appliquée préalablement, la jeune Philippine serait encore vivante. Donc je ne dis pas que cette loi était négligeable, mais cette loi ne concernait qu'une toute petite partie du problème. Eh bien, le Conseil constitutionnel l'a cassée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un bouleversement de notre ordre juridique, politico-juridique, pour revenir à la souveraineté du peuple sur la question de l'immigration. Et que parmi ces changements, vous savez quelle est la première disposition à prendre en matière de remigration?
Vous allez nous le dire,
Jean-Yves. Je vais vous le dire. La première disposition à prendre en matière de remigration, c'est l'arrêt des entrées supplémentaires. Voilà. Or, il entre aujourd'hui, chaque année, 500 000 entrées. Là, je parle des 340 000 ou 350 000 titres de séjour qui sont délivrés, plus les demandeurs d'asile, qui sont au nombre de plus de 150 000, dont un tiers à peu près obtiendra le droit d'asile, et donc 100 000 toujours à peu près, resteront dans la nature. Donc, on ne peut plus continuer comme ça, tout simplement, parce que on n'a pas les logements, on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas les écoles pour accueillir tout ce petit monde supplémentaire. Voilà. Mais pour arrêter l'entrée, simplement arrêter l'entrée de 500 000 étrangers supplémentaires par an, il faut bouleverser notre ordre juridique, parce qu'aujourd'hui, qui décide qui a le droit d'entrer ? Pour le regroupement familial, c'est le Conseil d'État. Pour le droit d'asile, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Et le Conseil d'État, là encore, quand il s'agit de faire voter une loi un peu plus restrictive que celle qui existe, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc, le pouvoir, c'est les juges. Et donc, si on ne remet pas en cause le pouvoir des juges sur l'immigration, on ne réglera aucun problème. On ne réglera pas l'arrêt d'entrée d'étrangers supplémentaires, on ne réglera pas l'expulsion des clandestins, on ne réglera pas l'expulsion des délinquants, on ne réglera aucun problème. Donc la véritable condition de la remigration, c'est de reprendre le pouvoir au pouvoir judiciaire, à la dictature judiciaire. Mmh.
Aujourd'hui, les médias, même les hommes politiques, tentent de faire passer cette mesure de la migration pour quelque chose d'assez extrême. En réalité, quand justement on arrête de demander l'avis du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, mais qu'on s'intéresse à ce que pensent les Français, les résultats disent tout à fait autre chose. Il y a une étude IFOP qui est sortie en 2022, et on imagine que les chiffres ont peut-être même progressé depuis, qui expliquait donc que sur l'ensemble des Français, quand on leur parle du mot « rémigration », eh bien, il y en a 66% qui considèrent que c'est un objectif qu'ils soutiennent, 66%. Donc en fait, il y a un décalage énorme entre l'opinion publique et, dans l'imaginaire collectif, la façon dont est perçue cette mesure politique.
Oui, et je pense que l'opinion n'est pas consciente de la réalité des 500 000 entrées chaque année. Imposé par la dictature judiciaire. S'il l'était, mais ils n'en croiraient pas leurs yeux, ils n'en croiraient pas leurs oreilles. J'ajoute que cette question de la remigration est posée maintenant à l'échelle de beaucoup de pays européens. Elle est posée en Italie, elle est posée en Allemagne, elle est posée en Grande-Bretagne. Il y a eu un sommet de la remigration à Milan, au mois de mai, où il y avait des représentants de chacun des pays européens, y compris dans certains cas de partis ayant tout à fait pignon sur rue, ayant une représentation importante. Tiens, simplement, en ce qui concerne l'Allemagne, le premier parti allemand aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, c'est l'AFD, et l'AFD a pris clairement parti pour la remigration. La remigration est d'ailleurs la seule solution pour éviter la submersion. Parce que si vous n'avez pas la remigration et que vous cumulez tout un tas de facteurs, d'abord aujourd'hui, dans la population française et européenne de manière plus générale, il y a plus de décès que de naissances. Bon. Et par conséquent, la population n'augmente que par l'immigration. Donc ça, c'est le premier facteur du grand remplacement. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un taux de fécondité plus élevé dans les populations immigrées que dans les populations d'origine européenne, et donc c'est le deuxième facteur du grand remplacement. Vous avez en France aujourd'hui à peu près 40% des naissances, si on en croit les statistiques, les études qui ont été faites sur le dépistage à la drépanocytose, avant qu'on l'impose à tous les enfants pour ne plus mesurer, eh bien, vous avez 40% des enfants qui naissent qui ne sont pas d'origine européenne. Donc, on voit très bien que si rien n'est fait, eh bien, il y aura les Européens deviendront minoritaires en Europe, selon les pays, entre 2050, 2060, 2070, mais c'est la tendance générale. La seule manière d'inverser la tendance, c'est de mettre en œuvre des politiques de remigration.
Alors, là encore, cette théorie du grand remplacement, puisqu'elle était présentée comme telle dans les médias pendant très longtemps. Aujourd'hui, elle est communément admise. Il y a quand même un changement de mentalité globale et on le voit, cette question de cette inquiétude concernant l'invasion migratoire et donc l'intérêt pour la solution de la migration va croissant, quel que soit le sujet, puisque par exemple à Londres, lors de cette manifestation pour la liberté d'expression, c'était, lorsqu'on grattait un peu le sujet, en réalité, l'une des grandes revendications, c'était le droit justement à réclamer cette immigration, ou en tout cas à condamner et critiquer l'immigration et tous les maux dont elle s'accompagne.
Voilà, alors permettez-moi de vous corriger, on doit dire normalement la théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement.
Voilà. Je note.
Il faut parler quand même un peu le politiquement correct sur cette radio, sinon ça devient très difficile. Bon, alors plus sérieusement, le grand remplacement, c'est un constat. Hein. La formule de Renaud Camus, ouvrez les yeux, vous le voyez dans les rues, vous les voyez dans les salles de classe, à la sortie des écoles, vous les voyez dans les maternités, vous les voyez dans les transports en commun, ouvrez les yeux. Donc c'est un constat. Et c'est un constat qui va aller en s'aggravant encore une fois, puisque chaque année, il rentre en France actuellement 500 000 étrangers supplémentaires. 500 000 étrangers supplémentaires. Ça veut dire, vous savez, il y a des écolos qui expliquent qu'il ne faut pas construire, il ne faut pas bétonner. Ben oui, les cocos, mais comment vous faites pour loger 500 000 personnes supplémentaires? Eh bien, moi, je vais vous dire, si on veut construire les logements qui correspondent à ces entrées supplémentaires, il faut bétonner pratiquement tous les ans le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, pour donner un exemple qui parlera aux Parisiens. C'est ça la réalité. Mais vous savez, si vous dites ça à un écologiste, il va vous répondre « Oui, mais l'arithmétique est une science fasciste ». Voilà. Donc à ce moment-là, ça devient très difficile. La réalité, c'est ça. Donc la première nécessité, si on parle de remigration, la première nécessité, c'est d'arrêter les entrées nouvelles. 500 000 par an, l'équivalent de l'agglomération de Toulouse. Bon, ensuite, il faut faire repartir les clandestins qui n'ont aucun droit à séjour né ici. Et il faut aussi expulser les délinquants, et pas seulement les délinquants qu'on appelle dangereux, tous les délinquants, ça suffira à changer un petit peu le climat. Parce que, comme l'a observé d'ailleurs assez justement Renaud Camus, les délinquants, c'est un peu les troupes de choc de l'occupation étrangère, c'est-à-dire c'est eux qui assurent le contrôle d'un certain nombre de quartiers et qui font que, dans un certain nombre de quartiers, les Européens sont de facto chassés.
Alors, Jean-Yves Le Gallou, je pense que la plupart des auditeurs partagent ce constat et d'ailleurs souhaitent effectivement que cette solution de la remigration soit mise en place. Il y a certains analystes qui se présentent comme étant beaucoup plus pragmatiques et qui tentent de nous expliquer qu'en réalité, techniquement, eh bien, ce n'est pas possible de renvoyer tous ces clandestins, délinquants, QTF, parce qu'en réalité, ça s'accompagne de négociations compliquées avec les pays dont ils sont issus. On nous explique aussi que parfois, on ne sait même pas en fait d'où ils viennent. On nous explique que ça coûte beaucoup d'argent et puis que par ailleurs, philosophiquement, mettre quelqu'un de force dans un avion, c'est quand même un peu dérangeant.
Alors, si vous voulez d'abord dire que c'est pas possible, c'est pas exact, puisque Trump a réduit de plus de 2 millions le nombre de clandestins aux États-Unis, donc ça prouve que c'est possible. La réalité, la seule véritable question, c'est de savoir qui décide. Qui décide? Est-ce que ce sont les 9 juges du Conseil constitutionnel? Est-ce que ce sont les quelques centaines de juges de la Cour nationale du droit d'asile? Est-ce que ce sont les quelques centaines de juges du Conseil d'État? Ou est-ce que ce sont les Français qui décident qui a le droit, et à travers eux, soit en votant par référendum, soit à travers le vote de leurs députés, qui décident qui a le droit de séjourner d'entrée ou de séjourner ou non en France? C'est ça la question. Et derrière cela, il y a une question de volonté politique. Il y a une question de volonté politique. On a vu, on a parlé de bras de fer avec l'Algérie. Les moyens de rétorsion de la France vis-à-vis de l'Algérie sont considérables. Considérables, ne serait-ce que parce que l'Algérie vit assez largement aujourd'hui des transferts d'argent des immigrés algériens à la première ou à la deuxième génération, y compris des immigrés algériens qui ont aujourd'hui la double nationalité, qui ont la nationalité française, ils vivent de cela, ce gouvernement. Donc, il est susceptible de contre-mesures. Voilà. Encore faut-il le vouloir. C'est une question de volonté. C'est absolument pas une question technique. Bon, de même, il faut expliquer à l'opinion que ce n'est pas au juge de décider qui a le droit d'entrer et de séjourner en France, alors qu'aujourd'hui, vous savez que si on applique les règles qui ont été fixées par rapport à la question du droit d'asile. Dans le droit d'asile, il y a deux types de droits. Il y a les gens qui viennent de pays en guerre, et il y a les gens qui sont susceptibles d'avoir des problèmes privés dans leur pays, parce que les petites filles peuvent être excisées, parce que les femmes peuvent être battues par leur mari, parce que les homosexuels sont mal vus. Et quand on cumule la population concernée par ces mesures, donc qui, si elles viennent en France et disent « bah voilà, j'appartiens à cette catégorie », on appelle ça un groupe social dans le jargon juridique de la Convention du droit d'asile et de son application par la Cour nationale du droit d'asile et par le Conseil d'État, ils sont 650 millions. Vous croyez qu'on peut accueillir 650 millions sur le territoire français ? Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent très peu dense, se déverse sur l'Europe, qui est un continent très dense ? Ça n'est pas supportable, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas durable. Et par conséquent, ou nous arrêtons les choses maintenant, ou nous engageons une politique de remigration, ou nous disparaissons derrière la submersion migratoire. C'est ça l'enjeu.
Puisqu'on en est à parler du droit, vous nous parliez du droit d'asile, Jean-Yves Le Gallou, il y a une autre question, c'est cette question du droit du sol. Puisque aujourd'hui, si on parle de remigration, il y a des parents, par exemple, dans une famille qui pourraient être concernés par cette mesure. En revanche, leurs enfants, eux, sont nés en France, n'ont des papiers qu'uniquement français. Comment est-ce qu'on ferait avec ces enfants-là? Et surtout, bon, j'imagine que la réponse sera oui, mais vous militez pour une remise en question du droit du sol.
Oui, alors, une petite précision quand même. Un enfant qui naît en France de parents étrangers, ne n'est pas français. Contrairement à ce qu'on dit de manière erronée, il peut devenir français, il a le droit à devenir français, il devient français à 18 ans, donc à sa majorité, et il peut anticiper cette demande à 13 ans. Voilà. Ce qui veut dire que de 0 à 13 ans, il n'est pas français, malgré effectivement cette disposition de droit du sol qui lui permet d'acquérir, de se voir attribuer la nationalité française à 18 ans, voire de manière anticipée de l'acquérir à 13 ans. Donc il faut rappeler ça. Ceci étant, ce droit du sol est parfaitement inadapté. Cela fait extrêmement longtemps que personnellement je milite comme beaucoup pour la suppression du droit de sol avec un argument quand même assez simple que tout le monde peut comprendre. Le droit du sol, c'est quoi? C'est j'appelle cheval toute vache née dans une écurie. Ben non, il ne suffit pas de naître en France si on est de parents étrangers, de culture étrangère, de civilisation étrangère pour devenir français. Donc effectivement, il faut supprimer le droit du sol, ça c'est tout à fait clair, mais qui est un droit du sol aujourd'hui, un droit du sol différé.
On en est parfois à la troisième ou quatrième génération, donc il y a peut-être des parents qui sont d'origine culture étrangère, mais qui eux effectivement ont pris leur nationalité française à 18 ans, qui aujourd'hui vont avoir des enfants qui naissent parfaitement français.
Alors ça, c'est exact. Alors si vous voulez, en matière de migration, très souvent, on pose d'abord la question des immigrés à la deuxième ou troisième génération avant de poser la question des immigrés à la première génération et des immigrés qui rentrent. Donc personnellement, je pense qu'il faut traiter les problèmes progressivement, c'est-à-dire on arrête les entrées, on expulse les clandestins, on expulse les délinquants, on prive de séjour ceux qui vivent uniquement les étrangers, qui vivent uniquement d'aide sociale. Ça, c'est la première étape. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a effectivement les immigrés à la deuxième ou troisième génération. Alors, je crois qu'il faut quand même procéder par étapes. Si vous voulez atteindre un sommet, vous commencez par monter progressivement. Vous n'arrivez pas directement au sommet. Ça, c'est la dernière étape. Alors, je ne vais pas me dérober par rapport à cette dernière étape. S'agissant des immigrés de la deuxième ou troisième génération, je parle des immigrés, en l'occurrence, la non-européens, puisque le problème ne se pose pas pour les immigrés européens, les immigrés de la deuxième, troisième génération, je crois qu'il y en a, on pourrait les distinguer. D'abord, ils sont binationaux, parce qu'en même temps qu'ils ont la nationalité française, ils ont la nationalité du pays d'origine, par le droit du sang, qui s'applique au pays d'origine. Bon, voyez par exemple... Le fils Zidane peut jouer dans l'équipe d'Algérie ou prétend vouloir jouer dans l'équipe d'Algérie au regard du droit du sang, voilà. Indépendamment de la nationalité française que son père a pu obtenir et j'en passe. Bon. Alors, s'agissant des immigrés de la deuxième ou troisième génération qui ont la nationalité française en même temps qu'une nationalité étrangère, je crois qu'on peut tout à fait distinguer trois catégories différentes. Vous avez un certain nombre de gens qui sont assimilés. Bon. Vous avez un certain nombre de gens qui ne sont pas assimilés, mais qui ne sont pas hostiles. Et puis, vous avez des gens qui sont inassimilés, hostiles et délinquants. Ben, il ne faut pas vouloir les traiter de la même manière. D'abord, les immigrés qui sont assimilés, bon, bah, y a pas de problème. Ils vont pas être concernés par la remigration. Les immigrés qui sont inassimilés mais qui ne sont pas hostiles, on peut peut-être les encourager à repartir, ne serait-ce que dans leur propre intérêt, mais c'est pas non plus un problème majeur. En revanche, les binationaux qui sont délinquants et hostiles, oui. Ils auront vocation à repartir. Je dois dire que c'est un sujet important d'ailleurs, parce que l'encadrement dans ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers de l'immigration, l'encadrement est de fait fait par, très souvent, par des immigrés de la seconde ou troisième génération qui sont délinquants et hostiles. Donc c'est un véritable problème. Et au fond, ils ont vocation, à partir du moment où ils sont délinquants, ils ont vocation à aller en prison, et une fois la prison effectuée, à être déchus de la nationalité française et expulsés. Voilà. Mais ça n'est qu'une partie du problème, et encore une fois, la partie des immigrés de la deuxième ou troisième génération qui est assimilée, il n'y a pas de problème particulier avec eux. Voilà.
Alors, Arthur de Vatrigan nous a rejoint, mais on a encore 2 minutes pour discuter avec vous, Jean-Yves Le Gallou, et ensuite on passera à sa chronique et on terminera cette discussion jusqu'à 8h15 tous les trois. Dernière question, puisque vous disiez qu'effectivement, enfin c'est ce que vous sous-entendiez, il y a aussi peut-être des mesures à mettre en place pour pouvoir inciter les gens qui seraient non assimilés à la culture française à quitter le pays pour des pays qui seraient plus en accord avec leur façon de vivre. Est-ce que vous pensez, par exemple, que donc, la réaffirmation de la culture française doit passer par la suppression des signes d'une autre culture ? Donc, je passe par exemple l'interdiction de l'abattage halal sur le sol français.
Oui, absolument. L'abattage halal, si vous voulez, le scandale de l'abattage halal, c'est que non seulement ces minorités bénéficient de cette filière d'abattage qui est une atteinte quand même terrible aux animaux et qui est un danger sanitaire.
Ouais.
Un danger sanitaire. On a parlé il y a quelques mois d'un certain nombre d'enfants qui ont été victimes d'intoxication. C'était une conséquence de l'abattage halal. Bon, mais non seulement cette filière bénéficie si je puis dire, aux représentants de ces minorités religieuses, mais elle s'impose aux autres, puisque notamment dans beaucoup de restaurants d'entreprise ou de cantines scolaires, comme il y a une minorité religieuse musulmane intolérante qui n'admet pas autre chose que ce type de nourriture, on l'impose à tous les autres. Donc le halal est un scandale absolu, puisque il ne s'agit, au-delà même de le permettre l'accès à ce type de viande à la minorité qui est concernée, cette minorité qui est concernée l'impose à tout le reste. Évidemment, il faut revenir sur cela.
On continue avec vous, Jean-Yves Le Gallou, dans quelques instants. On fait une parenthèse avec la chronique d'Arthur de Vatrigan.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Nous discutions avec Jean-Yves Le Gallou de remigration, Arthur de Vatrigan, donc un vaste sujet. Et je reprends la discussion avec la question d'une auditrice qui donc nous écrit en direct sur YouTube, qui nous dit « Très beau échange, mais pensez-vous être capable d'occuper les postes que ces immigrés occupent aujourd'hui ?» Et c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, mais aujourd'hui, tous ces immigrés, eh bien, ils travaillent à des postes que les Français ne veulent pas. Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, deux choses. D'abord, quand on parle des postes que les Français ne veulent pas, ça dépend où. Moi, j'observe que si vous allez en dehors de la région parisienne, que vous allez dans la France périphérique, vous trouvez du personnel français dans les cuisines des restaurants et vous trouvez du personnel français le long des routes pour faire des travaux d'aménagement, de lignes électriques ou d'amélioration des routes. Donc d'abord, ça dépend des endroits. Deuxième élément, les secteurs où on ne trouve pas effectivement de Français, comme le dit cette dame, pour occuper par exemple un poste en cuisine ou un poste dans le BTP, les régions, la région francilienne par exemple, eh bien si on ne trouve personne, c'est que les conditions de travail et de prix ne sont pas correctes et qu'on trouverait du monde si on payait plus correctement. Or aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a des salaires tirés à la baisse par l'entrée permanente d'étrangers supplémentaires, donc qui crée une certaine abondance de main-d'œuvre, alors qu'en même temps, on a un État social protecteur, un État providence, qui assure un minimum sans travailler. Donc l'écart, l'écart de gain pour celui qui travaille par rapport à celui qui ne travaille pas est très faible. Et par conséquent, ça n'est pas supportable, mais la réalité, ce n'est pas on fait venir des étrangers parce qu'on ne trouve pas de Français, des étrangers d'ailleurs souvent clandestins, mais on ne trouve pas de Français parce qu'on a des étrangers en masse sous-payés. C'est exactement l'inverse du processus. Le jour où il n'y aurait plus de clandestins dans le BTP et d'immigrés fraîchement arrivés dans le BTP ou dans la restauration, eh bien, on trouverait du monde parce que les conditions de travail seraient meilleures, que les prix seraient meilleurs. Peut-être faudrait-il qu'effectivement, les gens qui vont au restaurant payent plus cher. Mais je dois dire, quand vous allez dans des restaurants qui sont parfois chers et qu'ils chipotent en cuisine pour avoir des gens clandestins ou arrivés fréquemment, je trouve que c'est pas admissible. Les Uber, les gens qui se font livrer le repas, les gens de la bourgeoisie parisienne qui se font livrer les repas par des types en vélo arrivés d'Afrique et sous-payés, ça n'est pas admissible.
Et pas très humaniste par ailleurs.
Et pas très humaniste par ailleurs, non.
Arthur de Vatrigan, votre avis sur cette question de la rémigration ? On se demande donc dans cet entretien s'il s'agit d'une illusion ou véritablement d'une solution. Quel est votre avis ?
Et je voudrais revenir sur la question de votre auditrice, parce que je partage complètement ce qu'a dit Jean-Yves. Moi, je prends toujours l'exemple de mon petit village du Périgord, où j'ai la chance d'y aller en vacances, donc toutes les vacances scolaires en général. Bah, je vous promets que les poubelles sont ramassées, que les restaurants sont ouverts, que les bâtis sont construits et que les livreurs Amazon, ils n'ont pas la tronche des Victor Hugo venus du Sahel. Donc ça, c'est vraiment un prétexte bidon. Ensuite, évidemment que on sait que le modèle économique français, c'est la consommation. Il faut surconsommer, donc il faut toujours alimenter la pompe et la perfusion à consommer. Et c'est surtout vrai pour les grandes métropoles. Donc il faut que tout ce qui permet de consommer tourne H24, à savoir les restaurants, les livraisons. Et donc, évidemment que l'immigration permet non seulement de tirer à la baisse sur les salaires, mais d'assurer la perfusion. Pourquoi? Parce que si vous regardez, qui habite dans les HLM, par exemple, aux abords des villes ou dans les villes les plus proches de Paris? Bah, c'est majoritairement des immigrés. Et donc forcément, bah, le petit Français de souche, lui, on sait comment ça fonctionne. Comme il se retrouve en minorité culturelle et civilisationnelle, il s'en va. Et donc, en fait, il n'a plus les moyens de pouvoir habiter proche de Paris et donc de travailler à Paris, par exemple. C'est pourquoi on ne les voit pas. Il n'y a pas qu'une question de salaire, il y a une question aussi, quand vous habitez à 3 heures de Paris, bah vous ne pouvez pas faire la plonge dans les restos. Ça, c'est une réalité. Concernant votre question sur la remigration, il faut toujours se rappeler de Paul Valéry. Alors, on connaît la phrase, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Mais on oublie souvent la suite, c'est dans la crise de l'esprit. Et là, Ninive, Babylone était de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie seraient aussi de beaux noms. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Donc il semblerait que nous allons mourir, et a priori personne n'aime mourir ou ne veut mourir, donc il faut comprendre les causes de notre perte. Il y en a plusieurs évidemment, mais même un aveugle pourrait pas nier celle du remplacement de population. Sauf à penser que les individus sont interchangeables, bah, ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent pas à poil. Ils viennent avec une culture, une civilisation, des mœurs, des règles, même parfois des lois. Alors quelques-uns, évidemment que c'est pas grave, sauf qu'on a découvert, pour ceux en tout cas qui aiment les chiffres, qui veulent des preuves, bah, que c'est pas que quelques-uns, que c'est une masse. L'exemple même dont on parlait tout à l'heure, à savoir des emplois que les Français soi-disant ne veulent pas, bah, c'est parce qu'il y a une concentration de personnes au même endroit et qu'ils se sentent exclus. Donc il y a plusieurs questions. C'est, première réponse, évidemment, c'est on arrête la pompe aspirante, sauf que quand on voit énormément de gens qui sont déjà sur notre territoire, comment on le fait? Parce qu'on ne peut pas assimiler... Un peuple, on ne peut pas assimiler une masse. Donc, forcément, il doit y avoir plusieurs solutions. Et la remigration fait partie de cette solution. Mais ce qui est assez amusant, c'est en fait, il y a des institutions très officielles et souvent citées par la gauche qui prônent la remigration. Prenez l'ONU, par exemple. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, septembre 2007. Qu'est-ce qu'on lit? Article 33. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes ou à leurs traditions. Article 9. Les autochtones, peuples et individus ont le droit d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone conformément aux traditions, coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Article 13. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer, de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture. Donc si vous voulez, l'ONU fait la promotion de la tradition, de la transmission. Bon, bah, ça veut dire que ça fait partie des choses qui sont indispensables, qui sont nécessaires, qui sont prioritaires. Donc, si quelque chose les empêche, ça veut dire que beaucoup de moyens sont possibles pour arrêter ça. Et après, je peux prendre l'exemple de l'Union européenne, c'est assez marrant aussi. Septembre 2017, Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission européenne, bon, il se prenait pour le président des États-Unis de l'Europe, mais bon, qu'importe, il prononce un discours à Bruxelles sur l'état de l'Union. Et au chapitre de l'immigration, il dit « Concernant plus particulièrement les retours, et le mot est mis en gras sur la transcription officielle, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas droits de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. » Donc si vous voulez, il y a l'ONU qui vous explique que la sauvegarde de votre civilisation est indispensable, et c'est écrit dans une déclaration, et puis vous avez à l'UE l'ancien président de la Commission qui vous explique que la remigration, c'est possible. Donc, alors, évidemment, on sait très bien, parce que c'est une connotation soi-disant d'extrême droite, parce que c'est un épouvantail qu'on agite pour gueuler au racisme et compagnie, que les gens s'opposent, en tout cas les institutions, les élites, les médias s'opposent à la remigration, alors que la remigration est tout à fait légitime.
La question que pose Louis aujourd'hui en sondage aux auditeurs qui nous suivent sur YouTube et X, c'est: pensez-vous que si la rémigration est mise en place, elle pourra se faire de façon pacifique? Jean-Yves Le Gallou, c'est vrai que c'est une crainte que certains Français pourraient avoir. Si demain on met en place la rémigration, ça finit en guerre civile.
Et si demain on ne met pas en place la rémigration, est-ce qu'on n'aura pas aussi et la guerre civile est peut-être dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce qu'aujourd'hui vous avez des quartiers entiers du territoire, et pas seulement en Seine-Saint-Denis, qui échappe à la loi française et où il n'y a pas, entre guillemets, de guerre civile, parce qu'on a admis de perdre ces territoires et qu'on a admis que dans ces territoires, les Européens en soient chassés. C'est-à-dire, je pense que ce discours, c'est un discours, le discours, bah oui, mais ça va peut-être mal se passer, est un discours de renoncement, parce que si on ne fait rien, ça se passera encore plus mal. Et je crois que de ce point de vue-là, la remigration doit être prise comme un discours d'espoir pour les générations futures, pour éviter la submersion, pour éviter la domination. Parce que, je vais vous dire, le jour où les Européens seront minoritaires sur leur propre pays, ça se passera pas forcément beaucoup mieux pour eux que ça se passe pour les Blancs qui sont encore restés en Afrique du Sud, pays dont il faut quand même rappeler qu'ils l'ont construit. Mmh. Voilà.
Arthur de Vatrigan, même question sur cette menace d'une guerre civile qui pourrait éclater si jamais on met en place la rémigration.
Bah, les actes de guerre, on en connaît tous les jours en France. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on attend, plus ça va être violent. Si vous regardez la chronologie, vous faites un petit coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 40 ans, vous expliquez fermer les frontières, c'est inhumain. 40 ans plus tard, on vous explique, bon, c'est vrai qu'on aurait dû les fermer, mais la remigration, c'est inhumaine. Bah, après, ça va être quoi? En fait, le problème, c'est ça, c'est plus on attend, plus ça va être violent, plus ça va être tragique, plus ça va être dur. Donc après, une remigration organisée, et je crois que Jean-Yves a très bien travaillé sur le sujet, avec différents niveaux, ça peut se faire pacifiquement, parce que de toute façon, quand vous avez un État qui est fort, des politiques qui assument, et que vous avez une organisation pour le faire, pourquoi voulez-vous que ça soit violent? Ça va être tragique, ça va être dur pour les personnes qui doivent remigrer, c'est évident. Mais si c'est nécessaire à la sauvegarde et à la survie de la France, au bout d'un moment, il faut faire des choix.
Mmh. On parlait de dissuasion culturelle, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de mesures à mettre en place avec donc l'arrêt total de l'entrée des nouveaux immigrés, évidemment l'application des OQTF, puis ensuite l'expulsion des délinquants d'origine étrangère. Est-ce que vous pensez, Arthur de Vatrigan, qu'une forme de dissuasion culturelle en réaffirmant l'identité française et en l'opposant aux autres cultures qui ont tendance à se développer sur le sol français serait pertinente? Dans l'occurrence, par exemple, on parlait de la suppression de l'abattage halal ou de la nourriture halal dans les cantines scolaires, enfin tout ce genre de choses.
Ah, sur le principe, oui, mais pour moi, c'est du détail. C'est-à-dire que le problème, c'est quand vous avez un corps social contraire, vous ne pouvez rien imposer. Alors, il y a des. Si les personnes issues de l'immigration ou des immigrés sont en minorité en termes de nombre, vous pouvez en effet assumer des règles, des coutumes, des mœurs, des lois qui ne sont pas celles qu'il a connues avant en arrivant ici et celles de son pays d'origine. Vous pouvez l'imposer parce que vous êtes majoritaire. Mais malheureusement, il y a plein d'endroits en France où vous êtes minoritaire. Par exemple, si on prend l'exemple de l'école, parce qu'on en parle à chaque fois, on nous dit oui, il faut imposer telle chose, il faut imposer telle règle, on va créer telle loi. Mais si vous avez 80% d'enfants dans une école ou dans une classe qui est issue de l'immigration arabo-musulmane, qu'est-ce que vous voulez imposer? Vous ne pouvez rien imposer. Vous avez un corps social contraire. Une loi triomphe jamais dans un état social contraire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est minoritaire? Alors il y avait l'idée de Macron, mais moi sur le principe, je trouvais que c'était pas bête, hein. Dispatch sur le territoire. Bon, le problème, c'est qu'on sait qu'en fait, à chaque fois, c'est nous qui perdons. Mais si vous voulez assimiler, il faut que vous soyez majoritaire. Sinon, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je parlais un peu plus tôt là, de la nos civilisations mortelles, en disant qu'évidemment que la remigration faisait partie de pouvait être une des solutions, mais il ne faut pas oublier dans l'assimilation qu'il serait aussi temps d'assimiler les Français de souche. Parce que je vous rappelle que, alors, par l'école, par le service public, par tout ça, qui ont travaillé à la haine de la France, à la haine de notre histoire, bah, des millions de Français dits de souche sont prêts aujourd'hui à sacrifier la civilisation qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Parce qu'ils participent activement au basculement civilisationnel aussi, parce qu'ils épousent, alors on a parlé du soft power américain dans les années 80, là on a le soft power islamique, ça se trouve dans 10 ans sera le soft power chinois. Il y a aussi des millions de Français qui ne sont pas assimilés. Mmh. Et ça serait bien aussi de commencer par eux.
Jean-Yves Le Gallou, sur cette question de l'assimilation des Français de souche, effectivement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le corps social français est suffisamment homogène pour pouvoir s'accorder sur ce type de solution que serait la remigration?
Oui, je pense qu'on peut s'accorder sur la migration qui peut apparaître comme un espoir, comme un mythe porteur d'espoir. Mais pour répondre à ce qu'a dit Arthur de Vatrigan, je dirais deux choses. D'abord, l'éducation nationale, elle s'est perdue parce qu'elle a retiré tout ce qui était français pour les autres, même là où ils sont minoritaires. Or, aujourd'hui, il y a un clivage dans les écoles, puisque les gens choisissent, les Français quand même, choisissent pour beaucoup des écoles où leurs enfants vont se retrouver avec d'autres Européens, soit certaines écoles publiques en fonction de la carte scolaire, soit des écoles privées. Il faudrait déjà que ces écoles-là puissent librement redévelopper la transmission de la culture française, de l'histoire européenne, ce que ne permet pas actuellement les programmes scolaires. C'est le premier point. Deuxième point par rapport au rapport minorité-majorité, je reviens sur la question du halal. Aujourd'hui, le halal, c'est la minorité qui impose sa loi à la majorité, par l'intermédiaire de tout ce qui est collectif, et puis tout simplement par l'intermédiaire de la géographie, parce que dans les enfants qui ont été victimes d'intoxication alimentaire il y a quelques mois à cause du halal, il y avait des enfants, tout ce qui est le plus européen, mais les parents allaient faire les courses à la boucherie halal parce que c'est celle qui était à proximité de chez eux. Donc le halal, c'est typiquement un domaine où la minorité impose sa loi à la majorité, avec la complicité de la majorité, la complicité des responsables d'entreprise pour les cantines scolaires, la complicité des maires, la complicité des responsables d'entreprise pour les cantines d'entreprise, les restaurants d'entreprise, la complicité des maires pour les cantines scolaires. Mais c'est la minorité qui impose sa loi à la majorité. Ça, c'est quand même assez facile de renverser la table. Ça devrait être assez facile de renverser la table sur ce domaine.
C'est assez facile, mais l'un des arguments qui est avancé, c'est quand même que chacun doit pouvoir pratiquer son culte en France et qu'en question, en l'occurrence, c'est un aspect très religieux. Et ça va être difficile d'expliquer à des millions d'individus qu'en réalité, ils ne peuvent plus agir selon ce que leur religion leur demande.
Il faudrait déjà qu'ils cessent d'imposer ce que leur religion leur demande aux autres. La première étape par rapport au halal, ce serait, avant même de l'interdire ou d'interdire l'importation de viande abattue de manière halal, la première règle, ce serait de, voyez, alors là, je ne vais pas être très révolutionnaire, ce serait d'étiqueter. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand il y a eu le projet d'étiquetage, il y a eu un certain nombre de votes qui ont fait qu'il n'y a même pas d'étiquetage, c'est-à-dire qu'on cache la réalité aux gens.
Arthur de Vatrigan, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, une société libérale présuppose une société homogène, et homogène culturellement. Et si on regardait, en fait, il n'est pas question de religion. Et c'est pourquoi on se plante à chaque fois quand on agite la fameuse laïcité, notamment à l'école depuis 89 et l'affaire du voile de Creil. On n'a pas un problème avec une religion, on a un problème avec une civilisation. L'islam est une religion, ok, mais c'est surtout aussi un code civil. Ce sont des règles de vestimentaire, ce sont des règles de nourriture. Ça va jusqu'à régler le mariage, l'héritage. C'est une civilisation qui s'oppose à la nôtre. C'est pas un problème religieux. Ensuite, je voulais juste revenir sur ce que disait Jean-Yves Le Gallou sur l'école. En effet, évidemment que la majorité des Français, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, dès qu'il y en a une qui est à côté ou dès qu'ils ont les moyens de transport qui vont avec, ils mettent leurs enfants dans le privé. C'est évident. Et notamment, tous les Français qui sont hyper humanistes, hyper inclusifs, qui veulent ouvrir les frontières. Mais c'est là où on voit la plus grande fourberie, parce qu'ils mettent leurs enfants dans une école privée uniquement pour des questions ethniques et des questions sécuritaires. Alors qu'ils ne font même pas le lien eux-mêmes. Parce que si vous regardez, à chaque fois dans ces écoles privées, dès que ces écoles refusent d'épouser le dogme gauchiste, ce sont les premiers parents à pétitionner, à gueuler, à se plaindre et à faire des scandales. Donc en fait, ils ne choisissent pas l'école privée parce que, il va y avoir une transmission de la tradition, de l'histoire française, parce qu'ils vont bien savoir lire, écrire et compter. Ils le font uniquement pour des raisons ethniques et sécuritaires. Et donc, ça ne réglera pas le problème.
On va terminer sur ces mots. Merci Arthur de Vatrigan pour votre chronique et merci d'avoir participé à cet échange avec Jean-Yves Le Gallou sur la remigration. Chers auditeurs, je vous le disais, c'est une thématique qu'on va explorer dans les semaines à venir. On va tenter de vous présenter un sujet hebdomadaire à ce propos, histoire de décortiquer tous les aspects de la question. Donc Jean-Yves Le Gallou, merci d'avoir introduit cette série. C'était passionnant. Arthur de Vatrigan, encore merci. Bonne journée à tous les deux et à très bientôt.
Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
On poursuit avec l'analyse de Jean Messia. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, bonjour aux auditeurs.
Je vous souhaite une joyeuse journée internationale des migrants, Jean Messia.
Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à un cadeau pour la célébrer. Pourquoi ne pas offrir un billet retour à tous les migrants pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine ? Ça serait un cadeau de valeur à la fois pour les migrants et pour les pays d'accueil qui, aujourd'hui, ne sont plus en mesure d'accueillir toute la misère du monde. Donc, ça serait un bon compromis, je pense.
Ben je suis d'accord. Et puis, il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui expliquent souvent que la France, c'est terrible et qu'en fait, leur rêve, c'est quand même le bled, parce qu'au bled, c'est tellement toujours mieux qu'on pourrait effectivement leur offrir peut-être des vacances prolongées à durée indéterminée au bled, effectivement.
Ben, c'est-à-dire, c'est toujours fascinant, si vous voulez, de voir des gens parcourir des milliers de kilomètres et payer des milliers d'euros pour venir s'installer dans un pays dont ils traitent la population de raciste et de haineuse. J'ai envie de leur dire, il aurait mieux fallu envoyer un mail. Ça aurait été plus confortable et moins onéreux pour tout le monde.
Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur la façon dont on crée ces journées internationales, Jean Messia, ces journées internationales pour les migrants, des journées internationales de l'accueil, enfin toujours énormément d'idéologie dans ces journées-là. Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette façon de célébrer ce qui, en plus, la plupart du temps, est par ailleurs présenté comme étant un drame humain ?
D'abord, oui, il y a quelque chose presque d'indécent, si vous voulez, à dire d'un côté, ce qui est juste. Hein. Moi, je ne nie pas, et personne ne peut nier, que sur la planète, il y a des malheurs humains profonds, liés aux guerres, liés aux famines, liés aux difficultés économiques, et que effectivement, je ne nie pas non plus que des gens veuillent aller chercher meilleure fortune ailleurs. C'est quelque chose d'humain que tout être humain est en mesure de comprendre. Ce que je comprends moins, si vous voulez, c'est pourquoi sacralise-t-on le droit de certains peuples à émigrer, donc à quitter leur pays pour tout un tas de raisons, mais principalement des raisons économiques, il faut bien le dire, tout en déniant le droit des peuples d'accueil à défendre ce qu'ils sont chez eux et à ne pas vouloir accueillir la terre entière sur leur territoire. Bah, si on parle de droit des peuples, je suis désolé, mais les Français, c'est un peuple comme un autre. Les pays occidentaux, les pays européens, ce sont des peuples comme les autres qui ont eux aussi, n'en déplaise à certains, des droits. Ils ont les droits de défendre ce qu'ils sont chez eux. Voilà. Donc, d'un côté, on dit qu'effectivement, c'est un drame humain, et de l'autre côté, on en fait des journées pour les célébrer. Donc, allez comprendre. Ce que je veux vous dire par là, vous avez dit un point extrêmement intéressant quand vous avez parlé d'idéologie. Je pense que cette journée est un peu l'excroissance idéologique du modèle, du paradigme économico-politique qui nous régit depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui est justement un paradigme sans frontiériste d'une société liquide, d'une société où tout le monde bouge au gré du vent, où il s'agit d'écréter, d'araser toute forme de différence culturelle, de différence nationale, de différence historique, de différence linguistique, et de faire en sorte que le monde entier ne soit plus qu'un gigantesque marché dans lequel les individus devenus uniquement agents économiques peuvent, au gré des opportunités, partir et s'installer où ils veulent. Je suis désolé, mais pour paraphraser le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Bon, les œufs durs étant les nations, avec leurs racines, leur identité, leur spécificité, leur particularisme, qu'il y ait un étage marchand, évidemment, je veux dire, le monde a toujours commercé avec les différences nationales qui ont été les siennes depuis la nuit des temps. On n'a pas besoin, si vous voulez, de supprimer totalement les différences nationales, à supposer que ça soit souhaitable, pour laisser libre cours uniquement à une société, à un monde qui ne serait que marchand et où la seule valeur devant laquelle on se prosternerait, la seule idole devant laquelle on se prosternerait, c'est Mammon, le dieu de l'argent. Bon, donc si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs ça part tout par-delà, l'immigration au départ, en tout cas dans les pays occidentaux, l'accueil des immigrations est basé sur une problématique économique. Donc c'est effectivement les grandes entreprises au départ, dirigées sans doute par la reconstruction de la France, même très certainement, qui ont accueilli effectivement une main-d'œuvre jugée pas peu chère, corvéable, malléable, qui était censée contribuer à la reconstruction de notre pays après les catastrophes, la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est, je dirais, une immigration de travail qui était une immigration temporaire. Et ça, après tout, personne ne s'y oppose, même pas l'Italie de Giorgia Meloni, qui effectivement a régulé l'immigration par des contrats de travail temporaires permettant, je dirais, de pourvoir à des besoins, comment dirais-je, ponctuels, circonstanciés, qui n'a rien à voir en fait avec l'immigration définitive, l'immigration de peuplement, où des gens viennent, s'installent définitivement et finissent par demander une nationalité qu'un système peu regardant sur une assimilation qu'il considère presque comme du fascisme, va leur donner. Et in fine, on se retrouve dans des pays européens avec plusieurs peuples sur le même territoire national. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration est un phénomène protéiforme. Je veux dire, il y a effectivement les gens qui viennent de manière pour 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans sur des contrats temporaires dont l'objectif est qu'ils repartent chez eux une fois que le contrat est terminé. Et puis, vous avez les immigrations définitives. Malheureusement, au tournant des années 80, nous sommes passés d'une immigration de travail, d'une immigration temporaire qui n'avait pas vocation à rester sur le territoire national, à une immigration définitive, toujours pareil, sous la pression du MEDEF, qui, à l'époque, c'est le CNFP pour les plus anciens, qui militait en disant « les ouvriers qui viennent, on les forme, ça nous coûte de l'argent de les former sur les, comment dirais-je, sur les chaînes de production, et au moment où ils sont les plus productifs, il faut les laisser repartir ». Et le MEDEF, à l'époque, expliquait que, comme les économies s'internationalisaient, qu'on s'ouvrait, qu'il y avait une vraie problématique de compétitivité, ben, ceux qu'on payait pour être formés sur les chaînes, il fallait mieux qu'ils restent et qu'on fasse venir, pour le coup, leur famille sur notre territoire, pour les fidéliser, en quelque sorte. C'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Et donc, si vous voulez, la droite libérale qui a milité pour cette immigration pour des motifs économiques, pour cette immigration de peuplement, cette immigration de famille, et non plus d'une immigration individuelle, a rejoint une gauche qui, elle, par internationalisme et par humanisme, elle aussi militait pour l'ouverture des frontières. Alors, dans la gauche, il y avait aussi « la France est un pays raciste, la France est un pays antisémite, la France c'est Vichy », enfin bon, tout le bréviaire du livre abominable de Bernard-Henri Lévy, « L'idéologie française », qui vous explique qu'en gros, aux Olympiades de l'horreur, la France est le pire pays du monde. Et donc les deux, la droite et la gauche, pour des motifs comment dirais-je, différents, ont œuvré pour installer sur notre sol des immigrations définitives qui allaient bien au-delà de la capacité d'absorption identitaire de la France. Et donc, comme ces gens étaient voués à rester, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ben, en fait, il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins et dont j'aimerais aujourd'hui également parler, c'est la folle politique de naturalisation qui est tout aussi folle d'ailleurs que la politique d'immigration, et qui a en quelque sorte grimé en français des gens qui n'ont rien à voir avec la France et qui, parfois, avant que Sarkozy ne mette de l'ordre en 2011 uniquement sur la politique de naturalisation, je précise, ne parlaient même pas français. Mm. Et donc, voilà comment aujourd'hui nous avons des gens qui en fait restent des immigrés dans leur tête, des éternels immigrés. Ils sont fiers d'être Tunisiens, fiers d'être Algériens, fiers d'être Marocains, fiers d'être Maliens, fiers d'être Afghans, mais qui, portant la nationalité française, ne s'expriment jamais sur la fierté d'être Français. C'est-à-dire qu'on nous bassine en permanence avec leurs origines, ceux dont les Français n'en ont strictement rien à talquer. En revanche, ils ne parlent jamais de la fierté de porter notre citoyenneté, de porter notre nationalité. Voilà le drame. Donc, si vous voulez, cette journée internationale des migrations, c'est au fond présenter sur uniquement les pays d'accueil, hein, jamais les pays de départ, bizarrement, présenter les pays d'accueil comme des gigantesques Airbnb, des gigantesques hôtels où les gens, n'importe qui, venant de n'importe où, s'habillant, se comportant et parlant n'importe comment, finalement est français. Voilà. Et donc, à un moment, si vous voulez, moi, je crois qu'il faut maintenant, avec notamment l'arrivée de Trump au pouvoir et le changement paradigmatique progressif par lequel on quitte ce monde immigrationniste, sans frontiériste, liquide, vers un retour aux États-nations, ce que j'appelle moi le retour au monde néo-westphalien, des traités de Westphalie de 1648 qui ont instauré les États-nations, les frontières, etc. Nous sommes en train d'y revenir. Eh bien, je propose désormais que la journée internationale des migrants soit remplacée par la journée internationale des États-nations et revenir à un concept qui, au fond, est assez consensuel, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais à la différence des autres, j'y inclus, moi, le droit des peuples européens et occidentaux à disposer d'eux-mêmes et leur droit à défendre ce qu'ils sont et à rester propriétaires chez eux de leur pays.
Dans cette journée internationale des migrants, Jean Messia, il y a aussi la volonté d'invisibiliser complètement toutes les conséquences de cette immigration. Et en fait, ça témoigne simplement de la pudeur qu'on a encore à nommer les choses, que ce soit en termes économiques, en termes sécuritaires. Il y a encore un énorme tabou et je pense qu'aujourd'hui, si nos politiciens acceptaient de mettre en lumière tout ce que nous coûte, pas seulement sur le plan financier, encore une fois, mais aussi moral, éducatif, tout ce que nous coûte cette immigration, on ne fêterait peut-être pas cette journée de la même façon.
Vous avez tout à fait raison, parce que dans le modèle économique que j'ai détaillé en exergue à mon propos, c'est-à-dire faire venir des familles afin de fidéliser l'ouvrier étranger à son poste, qui était la logique sur laquelle s'est construite cette immigration massive, en réalité, qu'est-ce qui se passe encore d'un point de vue économique? C'est-à-dire que les entreprises internalisent les rentes et les avantages d'avoir une main-d'œuvre peu payée, malléable, corvéable, etc., tout en socialisant les coûts. C'est-à-dire qui loge ces étrangers, qui les soigne, qui les éduque, qui gère l'insécurité qui en découle? Eh bien, ce sont les Français, c'est l'État, c'est-à-dire l'impôt des Français. Donc, cette logique économique carnassière, vorace, qui consiste à tirer profit de la force de travail d'individus pour accroître la plus-value, pour parler comme Karl Marx, tout en déléguant tous les coûts afférents de cette logique à l'ensemble de la société. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, cette idéologie immigrationniste s'est construite sur un mensonge. Le mensonge qui consiste à dire que l'immigration est toujours et partout une chance et une richesse pour la France. Et évidemment, est-ce que vous avez... Alors, vous êtes un peu jeune, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais parmi vos auditeurs, je vous posais la question, est-ce qu'un jour vous avez entendu à la radio de l'Union soviétique, à la radio d'État, ou même dans la presse soviétique, des gens dire que l'idéologie soviétique était économiquement improductive? Jamais. Jamais les défauts de l'idéologie communiste n'ont été révélés, n'ont été éventés par l'État soviétique. Et vous savez, l'immigration fonctionne exactement comme une idéologie. On part du postulat que c'est une chance, c'est une richesse, et tout ce qui, dans la réalité, vient percuter et vient contredire ces deux leitmotifs est immédiatement démenti, invisibilisé, fardé, déformé, pour que les gens, finalement, eh bien, ne se réveille pas. Or, si on prend juste la réalité, est-ce que l'immigration est une chance et une richesse? Je considère aujourd'hui, compte tenu de l'état de la France, de son malaise identitaire, de son économie chancelante, de sa dette himalayenne, aujourd'hui, l'immigration est davantage une chance pour ceux qui haïssent la France, pas pour la France.
Oui, puisque ça l'a déconstruit complètement. Donc, effectivement, pour ceux qui œuvrent à cette déconstruction, l'immigration, c'est du pain béni.
Mais c'est ce que je dis toujours, si vous voulez. Il y a un système antinational, comme son nom l'indique, dont l'idéologie est de détruire la France. Emmanuel Macron étant le dernier avatar, le liquidateur en chef et le liquidateur suprême de la France qui est censé terminer le boulot fait avant lui par les présidents successifs. Et donc, dans cette entreprise de destruction de la France par le haut, c'est-à-dire par les élites gaucho-progressistes antinationales qui nous dirigent depuis une cinquantaine d'années, l'immigration par le bas, les immigrations haineuses de la France sont un allié et un supplétif précieux. Et en réalité, la France est prise dans ce ciseau, elle est prise dans cette tenaille entre le haut des dirigeants qui nous trahissent et qui trahissent la France pour la détruire et par le bas des immigrations qui sapent l'identité, qui sapent nos racines, qui sapent notre histoire et qui veulent, avec la bénédiction et les encouragements des élites politiques, médiatiques, etc., tout simplement en finir avec la France. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui pour les Français de se réveiller parce que, vous savez, la disparition d'un pays n'est pas du tout un fantasme, hein. Je suis moi-même issu d'un pays, l'Égypte, pour ne pas le nommer, une Égypte qui, pendant 7 siècles après la chute des pharaons, était une Égypte chrétienne, une Égypte copte. Et puis, un jour, l'Égypte a cessé de devenir chrétienne et copte. Elle a été envahie, elle a été islamisée. La langue copte, qui était la langue de l'Égypte pendant plusieurs siècles, sinon pendant plusieurs millénaires, a disparu. Ça a été arabisé, islamisé. Et aujourd'hui, les propriétaires originels de l'Égypte sont minoritaires dans leur propre pays et persécutés dans leur propre pays. Donc, ce que je raconte pour la France, ce que je crains pour la France n'est pas un fantasme. Oui. C'est déjà arrivé dans d'autres contrées et dans d'autres pays. Et donc, il faut que les Français se réveillent, il faut que les Français prennent la mesure de la menace existentielle qui les guette. L'immigration aujourd'hui n'est pas une chance, l'immigration aujourd'hui est le poison mortel qui peut tuer définitivement un pays. Et lorsqu'un pays meurt, plus aucune politique, plus aucune mesure, plus aucune stratégie ne peut le ressusciter, contrairement à tous les autres problèmes dont on nous dit que c'est des problèmes prioritaires, comme le pouvoir d'achat, la dette, la réindustrialisation, etc. Tout ça se règle. La seule chose qui ne se règle pas, c'est un pays qui cesse d'être ce qu'il est.
Oui, bien sûr. Jean Messia, vous avez commencé par une boutade sur le fait qu'on pouvait justement offrir un billet d'avion à tous ces migrants. Donc évidemment, vous faites allusion à la remigration. Puisque vous, justement, vous êtes quand même formé en économie et que c'est ce dont on parle beaucoup dans cet entretien aussi, on entend souvent cet argument de la remigration, c'est impossible, et donc notamment parce que ça nous coûterait trop cher, on n'a plus les moyens de tout organiser. Qu'est-ce que vous répondriez à cela ?
Écoutez, je pense que répondre d'une manière théorique, ça laisserait les gens sur leur faim et ça permettrait toujours des contre-arguments. Prenons les choses d'un point de vue concret. Il y a quelque chose, une politique qui est en train de réussir sous nos yeux, c'est celle de Donald Trump. Je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'en avais dit un mot à votre antenne. Donald Trump aujourd'hui, d'ailleurs vous apercevez que les médias français ne font pas une grande publicité sur ses succès, puisque ça viendrait encore une fois démentir leurs œillères idéologiques. Donald Trump est en train de réussir sur la question migratoire. Il y a déjà, depuis janvier, donc depuis sa prise de fonction aux États-Unis, il y a déjà près de 300 000 personnes qui ont été rémigrées. Ça, c'est l'effet direct de la politique, puisqu'il a créé en plus une police de la rémigration qui arrête les clandestins et qui les renvoie chez eux. Ça, c'est l'effet direct. Mais ce dont on parle moins, c'est les effets induits. C'est-à-dire que lorsque les images des arrestations de la police de la rémigration ont circulé sur les réseaux sociaux, ça a spontanément généré près d'un million de départs volontaires de migrants installés aux États-Unis qui ne voulaient pas se voir arrêtés et jetés dans un avion de force et contraints. Donc, ils ont pris par eux-mêmes l'initiative de repartir. Et des études américaines très sérieuses estiment à près de 2,5 millions les candidats à l'immigration aux États-Unis qui ont renoncé à leur projet en voyant ce qui se passe pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire américain. Donc, vous savez, comme disait le général de Gaulle, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Il est évident qu'un système qui ne cesse de vous répéter que tout est impossible, il ne risque pas d'emporter des victoires. Il est vrai que lorsqu'on décrète une guerre contre un problème, ça ne garantit pas de réussir. Mais ne rien décréter garantit d'échouer. Donc, il faut évidemment tenter cela. Et je terminerai mon propos en disant que en France, un parti qui se prétend national et patriote et qui n'a pas comme mesure dans son programme la rémigration est un parti patriote et national contrefait. Parce qu'on ne se sortira pas du problème migratoire français uniquement en stoppant l'immigration. Il faut évidemment renvoyer par cercle concentrique les clandestins, ceux qui sont de manière irrégulière sur le territoire, les OQTF, dont les OQTF évidemment, tous ceux qui ont des titres de séjour réguliers de résidents, mais qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux, on n'est pas obligé de renouveler un titre de séjour. Nous avons pris l'habitude en France que les cartes de résidents sont automatiquement renouvelées. Aucun pays au monde fait ça. Tout pays au monde, quand quelqu'un est sur le territoire et qu'il ne trouve pas de travail au bout de 3 mois, son titre de séjour est arrêté et est stoppé, non renouvelé, et il est prié de quitter le territoire. Manu militari. Bon, il faut que la France reprenne en main sa politique de carte de séjour, qui n'en est plus une aujourd'hui. Et enfin, les binationaux qui commettent des crimes graves, qui commettent des atteintes à la sûreté de l'État, dont il est avéré qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, doivent être déchus de leur nationalité française et rémigrés dans leur pays d'origine. Un parti qui n'a pas dans son programme une politique de rémigration claire ne peut pas être qualifié de parti patriotique ou de parti national. C'est en réalité ce qu'on appelait naguère un parti jaune, comme on appelait un syndicat jaune, c'est-à-dire un syndicat qui a les mots du patriotisme, qui a la forme du patriotisme, mais qui n'est pas patriote.
Ouais. Au-delà de toutes ces données plutôt juridiques et judiciaires, Jean Messia, il y a évidemment des critères en termes d'intégration à évaluer. Et je pense que là, il y a aussi énormément d'immigrés, mais qui sont parfois là depuis des générations, qui choisiront de s'en aller. Si demain, ils n'ont plus accès à la nourriture qu'ils souhaitent manger, à l'éducation qu'ils veulent, souvent musulmane, pour leurs enfants, si on ne leur autorise plus à pratiquer la monogamie, ce genre de choses. Parce que évidemment, on nous dira, par exemple, la monogamie, oui, c'est interdit en France. Mais en réalité, on voit que déjà la question fait débat. Et par ailleurs, c'est pas pour ça que certains s'en privent.
Disons que votre question touche quelque chose de beaucoup plus large, touche à l'identité, c'est-à-dire qu'on ne combat pas.
J'ai dit la monogamie, c'est la polygamie, évidemment.
Oui, la polygamie, j'ai bien compris. Le problème, c'est qu'on ne combat pas un suprémacisme identitaire avec de prétendues valeurs de la République dont personne d'ailleurs ne définit le contenu. C'est quoi les valeurs de la République et qu'est-ce que c'est les valeurs de la République ? Et de quelle République parle-t-on au juste ? C'est les valeurs de la République islamique ? C'est les valeurs de la République populaire ? Non, c'est les valeurs de la République française. Bizarrement, ceux qui parlent de valeurs de la République, ils décapitent le qualificatif de français parce qu'ils ne veulent pas que la République soit française. C'est déjà un grand signe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le cran d'arrêt à tout, les irrédentismes alter-identitaires, c'est d'affirmer toujours et partout l'identité française. En France, on ne se voile pas. En France, on ne prie pas dans la rue. En France, on ne fait pas d'appel à la prière publique à partir de mosquées. Et donc, ces suprémacismes identitaires et religieux ne sont forts que de nos faiblesses. C'est-à-dire que le jour où nous aurons en France un pouvoir national qui mettra un cran d'arrêt juridique qui mettra un cran d'arrêt identitaire à l'ensemble de ces tentatives de conquête religieuse, eh bien la chose se réglera. On combat pas l'islamisation d'un pays par la République qui n'est jamais qu'un contenant. On combat l'islamisation de la France par la réaffirmation des valeurs de la France, des racines de la France, dont le christianisme est évidemment un môle important. Voilà pourquoi les sociétés islamiques ne connaissent pas de christianisation ou ne connaissent pas de changement, identitaire. Tout simplement parce que ce sont des sociétés extrêmement homogènes, extrêmement fortes, qui ont des anticorps identitaires extrêmement puissants. Allez essayer d'installer 3 ou 4 églises au Maroc en faisant sonner les cloches, ou en Algérie. Vous aurez immédiatement une révolte généralisée de la population, parce que ça, c'est un point très important. On vous dit, ah oui, mais il n'y a aucune loi en France qui interdise le voile islamique. C'est tout à fait exact, mais il n'y a aucune loi au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie qui interdise à quelqu'un de se balader en costume de croisée dans la Médina ou dans la Casbah. Est-ce que pour autant, si quelqu'un se balade en costume de croisée dans la Casbah ou dans la Médina, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Il serait immédiatement pourchassé et il serait probablement renvoyé en France en 36 colis. Bon, et il n'y a pour autant pas de loi qui interdise de se vêtir de cette façon. Ça veut bien dire que la question identitaire ne se réduit pas à une question juridique, qu'il y a évidemment dans chaque peuple une forme de défense naturelle, pavlovienne, instinctive de ce qu'ils sont par rapport à des menaces identifiées comme pouvant altérer ou changer l'identité d'une nation. Alors, les mêmes trouvent ça extraordinaire que quand on se balade avec un voile islamique dans la rue, les gens vous regardent de manière étrange. Excusez du peu. Si on adopte un accoutrement choquant dans un pays arabe, ça sera autre chose qu'un regard étrange.
Ouais.
Donc, il faut raison garder. On ne peut pas se déguiser en bédouin du 8e siècle au milieu d'un pays qui est un pays occidental en 2025 et s'étonner que les gens vous regardent de traviole. Enfin, c'est quand même le minimum de dépenses identitaire par rapport à ce qu'on est chez nous et par rapport à ce qu'on ne veut pas voir arriver massivement chez nous. Donc, je dirais que si on remplace dans notre discours le mot France ou français par le mot marocain, marocaine, Maroc, ou par le mot algérien, algérienne, Algérie, ben vous vous rendez compte qu'en fait, le discours que nous avons en France, c'est exactement le même discours adopté par tous les pays du monde, à commencer par les pays arabo-musulmans qui sont très identitaires et très souverainistes chez eux. Donc on ne peut pas considérer comme anormal des choses qui sont applaudies dans les autres pays.
Merci Jean Messia. Encore une fois, voilà, cette journée internationale des migrants, on aura rappelé qu'un migrant, s'il est venu, il peut aussi repartir. On n'en attendait pas moins de vous. Merci. Puis on se retrouve en pleine forme.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Merci d'avoir suivi cette ligne droite spéciale consacrée à la remigration. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir financièrement en vous rendant sur cette adresse. Notez-la bien, soutenir.rc.fr, ou bien encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Rendez-vous demain à 7h pour un nouveau florilège d'entretien accordé à ligne droite qui sera consacré cette fois-ci à l'euthanasie. À demain.